journal. Le grand journal. Steve Nadjar.
Le 6-9. Radio J.
Radio J. Il est 6h. Bonjour et bienvenue sur Radio J. Nous sommes en direct comme chaque matin, ce jeudi 19 juin 2025. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. 622e jour de guerre en Israël et malheureusement, il y a toujours 53 otages à Gaza. Parler de cette guerre à Gaza qui se poursuit, mais aussi de ce qui se passe en ce moment entre Israël et l'Iran. Ça ne s'est pas apaisé, évidemment. On va en parler avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
Et à la réalisation, Greg est avec nous. Bonjour Greg.
Bonjour Ilana, bonjour Eva, bonjour à tous.
Super. Alors, voilà. La situation ne s'est pas apaisée au Proche-Orient, mais est-ce que vous, vous êtes apaisé?
Moi, ça va.
Ça va, vous êtes
ouais.
En forme.
Oui, très.
Pour donner les meilleures infos aux auditeurs.
Oui. Ça va, les meilleures, mais pas les plus joyeuses.
C'est vrai, pas les plus joyeuses, effectivement. Mais on fera le point avec vous, Eva Soto, avec vous, Greg, également. N'hésitez pas à intervenir dans cette matinale. On sera avec Pascal Sunshine à Jérusalem à partir de 6h07. Et puis, on va revenir aussi sur toute cette situation avec Jacques Neria, ancien officier du renseignement, qui connaît bien aussi la situation sur le terrain. Et puis, avant 7h, ce sondage du CRIF, également, qui interroge sur la reconnaissance d'un État palestinien mené avec un institut de sondage. C'est Robert Egenès, le directeur du CRIF, qui sera avec nous. Ce sera avant 7h. Mais d'abord, l'actualité, on va commencer par Gaza avec ce nouveau soldat israélien qui est tombé au combat hier.
Le sergent-chef Stav Alfon avait 20 ans. Il appartenait au 603e bataillon du génie de combat. Il était originaire de Petah Tikva. Il a été tué par des tirs de snipers à Khan Younes. Il y a eu 871 soldats israéliens tués depuis les massacres antisémites du 7 octobre. Par ailleurs, sur le front nord au Liban, l'armée israélienne a éliminé ce matin le commandant de l'artillerie du Hezbollah dans le sud Liban.
La guerre Israël-Iran à présent, celle qui demande aux habitants d'Arak et de Kondab d'évacuer ces zones pour leur sécurité.
Un réacteur à eau lourde se trouve à proximité. L'armée israélienne a publié un communiqué en farsi pour expliquer qu'elle opère contre les infrastructures militaires iraniennes du secteur. Hier soir, Tzal a aussi mené une nouvelle série de frappes contre des sites de lancement et de stockage de missiles sol-sol dans l'ouest de l'Iran. Et Binyamin Netanyahou s'est adressé aux Israéliens, alors qu'aujourd'hui, ça fait une semaine que l'État juif a lancé ses opérations militaires contre l'Iran, le premier ministre Netanyahou.
Nous avons lancé cette opération pour éliminer deux menaces qui pèsent sur l'État d'Israël, la menace nucléaire et la menace balistique. Nous progressons pas à pas vers l'élimination de ces menaces. Nous contrôlons le ciel de Téhéran, nous frappons le régime des ayatollahs avec une force considérable, nous frappons les sites nucléaires, les missiles, les quartiers généraux, les symboles du pouvoir. Je dois vous dire que je discute avec des dirigeants mondiaux et nous suscitons leur immense admiration pour notre détermination, pour les réalisations de nos forces et une immense admiration pour vous, citoyens d'Israël.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, alors que l'Iran affirme avoir lancé hier soir des missiles hypersoniques contre Israël. Selon la télévision d'État, les missiles Fatah auraient pénétré avec succès les défenses du régime israélien, mais il n'y a eu aucun blessé.
Benjamin Netanyahou qui a aussi remercié, lui, le président Donald Trump pour son soutien.
Interrogé sur sa conversation téléphonique d'avant-hier avec Benjamin Netanyahou, le président américain a affirmé qu'il lui avait dit de continuer, selon les mots du locataire de la Maison Blanche. Le Premier ministre israélien fait du bon travail. Le président Donald Trump s'est aussi exprimé hier soir à propos de l'hypothèse de l'entrée des États-Unis dans la guerre.
J'ai un plan pour tout, mais nous allons voir ce qui se passe. Nous allons voir un petit peu quelles sont les possibilités. Ils auraient dû faire un accord. J'avais un super accord à leur proposer. Ils auraient dû faire cet accord. On en a parlé pendant 60 jours. On a parlé de 60 jours et ils ont décidé de ne pas signer l'accord. J'aurais aimé qu'ils le fassent. Ils veulent nous rencontrer, mais c'est un petit peu tard maintenant. Mais ils veulent nous rencontrer et ils veulent venir à la Maison Blanche. Nous allons voir. Peut-être que je les inviterai. Quoi qu'il en soit, c'est une honte. C'est dommage. Ça aurait pu être mieux fait.
Donald Trump, traduit par LCI, le peuple iranien ne se soumettra à personne, a affirmé le guide suprême iranien. La Corée du Nord, elle, s'est rangée du côté de l'Iran et affirme que les frappes israéliennes sont une atteinte à la souveraineté du régime islamique. Elle évoque aussi un cancer pour la paix au Moyen-Orient.
La France, elle, veut un règlement négocié du conflit et juge même urgent de mettre fin aux opérations militaires entre Israël et l'Iran.
Le président Macron demande au ministre des Affaires étrangères de prendre une initiative dans ce sens ces prochains jours aux côtés des partenaires européens. C'est ce qu'a annoncé l'Elysée dans un communiqué hier soir à l'issue du Conseil de défense et de sécurité. Pour Emmanuel Macron, les frappes israéliennes visent de plus en plus des objectifs sans lien avec le programme nucléaire ou balistique. Le chef de l'État déplore aussi un nombre croissant de victimes civiles en Israël et en Iran.
Le reste de l'actualité en France, la députée RN Caroline Parmentier est épinglée pour ses propos racistes, homophobes et pétainistes sur Facebook.
Selon le vice-président du RN, Sébastien Chenu, elle aurait rompu avec longtemps depuis cette ligne, mais sur un compte à son nom et mise en sommeil depuis qu'elle a rejoint l'équipe de Marine Le Pen. Caroline Parmentier a affiché son soutien au maréchal Pétain via un photomontage. Ses propos datent de 2018. Elle ironise aussi sur une photo d'Emmanuel Macron avec des remarques homophobes.
Et puis enfin, il appelait à éliminer le peuple juif, un militant d'ultra-droite jugé pour le meurtre d'un franco-marocain.
Il doit répondre d'homicide volontaire après la mort d'Éric Casado Lopez en 2022. Son procès devant la cour d'assises de Paris s'achève demain. Le suspect mentionne un geste réflexe ou la peur d'être agressé pour expliquer son tir. Il avait publié sur les réseaux sociaux des propos racistes et anti-juifs tels que « l'antisémitisme n'existe pas » en appelant à éliminer jusqu'au dernier de ce qu'il qualifiait de cafard.
Merci beaucoup Eva Soto. On vous retrouve tout au long de cette édition. Vous restez avec nous. Un point sur la météo de ce jeudi matin. Le temps est très ensoleillé avec des températures encore agréables au lever du jour, mais qui grimpent très rapidement avec beaucoup de soleil. Cet après-midi, c'est un grand et beau temps généralisé avec la vague de chaleur qui s'installe pour plusieurs jours. Le soleil s'accompagne donc de fortes chaleurs. 32 degrés à Paris, il fera cet après-midi. 37 à Bordeaux, le maximum, 24 à Cherbourg. Et puis grand soleil en Israël également, 29 degrés à Tel Aviv, 28 à Haïfa et 37 si vous descendez à Eilat.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci de votre fidélité et de votre écoute ce matin. La guerre qui se poursuit et comme chaque matin depuis le 7 octobre 2023, on fait le point avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal.
Bonjour Ilana.
On va parler dans un instant de la guerre entre Israël et l'Iran, mais d'abord sur le front sud à Gaza, on l'a appris malheureusement, encore la mort d'un soldat israélien.
Alors si vous le voulez bien Ilana, d'abord je tiens à prévenir les auditeurs qui ne s'affolent pas si au milieu de notre direct, vous entendez à travers le téléphone une sirène.
Pas de problème.
On sera en bombardement. On a maintenant le commandement de la défense civile de Tzahal a annoncé que des départs de tirs de missiles balistiques avaient été. Voilà.
Pas de problème. On sera.
Et maintenant, donc, on va essayer de continuer. Je ne garantis pas si la communication sera bonne.
Bien sûr. Et si vous devez vous protéger, n'hésitez pas, Pascal. Hein. On comprendra parfaitement.
Voilà. On se dirige vers la zone protégée au moment où je vous parle. Donc voilà.
On vit la situation en direct avec vous.
On va vivre ça en direct.
Voilà, Pascal, vous devez vous diriger dans un abri, il me semble. Ouais.
Oui. Voilà. Bon, il y a quelques préparatifs à accomplir en même temps. Donc on va tâcher de voilà.
Bien sûr. Prenez votre temps, Pascal. Ne vous inquiétez pas. Prenez votre tout.
Des personnes vulnérables aussi à aider pendant cette alerte. Bon, c'est une pré-alerte pour l'instant. Les missiles sont en route. On sait qu'il s'agit environ de 9 à 10 minutes avant que les missiles n'atteignent la zone d'Israël, donc apparemment pour l'instant dirigé vers le centre du pays et vers Jérusalem. On n'a pas encore le nombre précis de missiles tirés.
Oui, évidemment la prudence. Vous devez vous mettre dans votre cage d'escalier, je crois, c'est ça?
Voilà, là je me suis déplacée de façon à avoir à avoir aussi accès à une pièce fortifiée aussi pour pouvoir permettre de continuer justement à vous rendre compte de l'actualité, ce qui était devenu impossible dans le lieu précédent puisque maintenant on a obligation de se trouver dans un abri homologué. On a vu évidemment la puissance des missiles tirés par l'Iran qui n'ont évidemment rien à voir avec ceux que l'on connaissait du Hezbollah ou du Hamas. Qui fait donc d'ailleurs, c'est aussi pour cela que on a des préalertes justement d'une dizaine de minutes de façon à donner le temps à la population de trouver un abri. Alors évidemment, tant qu'on est sur son lieu de résidence. C'est en quelque sorte plus facile puisqu'on connaît les alentours. Le problème est évidemment dans les cas de déplacement, puisque depuis hier, la défense civile a allégé les restrictions de façon à permettre aussi une reprise partielle de l'activité sociale, de l'activité économique. Mais là, évidemment, pour les personnes qui se déplacent vers leur lieu de travail, la situation est évidemment plus compliquée.
Forcément, oui. Alors, il y a cette guerre Israël-Iran. Alors, peut-être qu'on continue là-dessus ou on parle directement de Gaza. Pascal, je ne sais pas si vous avez des informations sur ce qui s'est passé dans la bande de Gaza.
On peut continuer, oui, absolument, puisque c'est aussi, malheureusement, cette guerre multifront qui continue, oui. C'est-à-dire que l'opération chariot de Gédéon à Gaza continue et qu'hier soir, on a malheureusement appris la mort d'un soldat de Tal, le premier sergent Stavral von 20 ans, qui a été tué dans le sud de la bande de Gaza par un tir de sniper du Hamas. Un autre soldat de Tal a également été blessé dans un incident séparé. Donc ce front continue avec quatre divisions de Tal qui opèrent toujours à l'intérieur de l'enclave côtière. Et puis pour revenir à la confrontation avec l'Iran, il y a eu depuis hier soir, avant la préalerte dans laquelle nous sommes maintenant, deux salves de missiles tirés par l'Iran. Au total, une dizaine de missiles en début de soirée vers 2h du matin. 10 missiles qui ont été interceptés, ceux en tout cas qui visaient les centres de population, qui ont été interceptés par la défense antimissile israélienne. Il n'y a pas eu de blessés. Il y a eu quelques dégâts matériels légers causés par des départs de feu. Et un petit peu avant que nous ne prenions l'antenne, une alerte aussi à l'incursion de drones dans l'est d'Israël et sur la Galilée. Une traque drone iranien qui continue parallèlement.
Et alors hier, on s'interrogeait avec vous et tout au long de la journée pour savoir si les États-Unis allaient enfin frapper l'Iran ou pas. Et de nouvelles déclarations de Donald Trump hier sont venues semer le doute puisqu'il a parlé de négociations, de l'Iran qui était prêt à négocier. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre ce que veut faire le président américain. Est-ce qu'en Israël, on a plus d'infos?
Alors, est-ce que ça fait partie de la tactique de Donald Trump? C'est assez probable. Selon plusieurs sources de médias américains, notamment le Wall Street Journal et le site Axios, le président... Oh, ok, maintenant l'alerte est sur Jérusalem. Donc j'espère que vous m'entendez toujours.
On vous entend très bien, Pascal, mais si vous devez raccrocher, okay. on comprendra parfaitement.
Bon. Hein. Voilà, oui. Absolument. Non, pour l'instant, on va tâcher de continuer normalement. Oui, je vous disais donc qu'apparemment, le président des États-Unis aurait validé le plan opérationnel d'intervention militaire américaine en Iran, ce qui veut dire probablement le bombardement de la centrale de Fordo, cette fameuse centrale souterraine iranienne qui est le cœur de son programme nucléaire militaire et pour lequel Israël ne dispose pas des munitions nécessaires pour une attaque aérienne, ces fameuses superbombes perforantes que seuls les États-Unis détiennent et qui doivent être larguées depuis un bombardier stratégique, le fameux bombardier B-2 ou B-52, là aussi qu'Israël n'a pas dans son arsenal. Apparemment, Donald Trump veut être certain que cette opération serait un succès, c'est-à-dire qu'elle détruirait effectivement la centrale de Fordo. C'est la première, c'est le premier paramètre dans ces considérations. Et aussi, évidemment, les répercussions, mais en attendant, disons, agiter cette menace permet peut-être aussi de persuader les Iraniens de capituler. C'est ce, évidemment, le président des États-Unis privilégierait, étant donné, on sait, qu'il préfère jusqu'à présent éviter de déclencher de nouvelles guerres.
Eh bien, merci beaucoup, Pascal Zonshine. On va vous laisser vous abriter et évidemment faire attention. On reste en contact hein, puisqu'on vous retrouve tout à l'heure à partir de 7h26. Merci infiniment, Pascal. Take care, comme on dit, évidemment. Soyez prudents et prudentes en Israël. On pense à vous. Et Jacques Neria, qui vient de nous envoyer un message aussi, qu'il ne pourra pas intervenir à 6h20 puisqu'il est dans un abri, lui, sans communication, sans réseau. Mais ne vous inquiétez pas, on a des choses à vous dire sur Radio J. ne bougez pas, vous pouvez évidemment nous regarder, nous écouter sur notre chaîne YouTube dans quelques instants. L'essentiel de l'information avec Eva Soto. Et puis juste après, ce sera Shirim. On se détend un peu avec la chanson israélienne du jour.
Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
6h15, toute l'actualité avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. Nous l'avons vécu à l'instant en direct avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Des sirènes d'alerte qui se sont déclenchées ce matin en Israël, dans tout le pays, suite à des lancements de missiles depuis l'Iran. Tzahal qui a aussi de son côté demandé aux habitants d'Arak et de Kondab d'évacuer ces zones pour leur sécurité. Un réacteur à eau lourde se trouve à proximité. Le Premier ministre Netanyahou a quant à lui remercié Donald Trump pour son soutien. Le président américain a affirmé qu'il avait dit au téléphone au Premier ministre de continuer. Le Premier ministre israélien fait du bon travail, a-t-il dit. La France, elle, veut un règlement négocié du conflit et juge même urgent de mettre fin aux opérations militaires entre Israël et l'Iran. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée dans un communiqué hier soir à l'issue du Conseil de défense et de sécurité.
Merci beaucoup Eva Soto. On vous retrouve dans quelques instants à partir de 6h20 pour notre dossier d'histoire du jour.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Un peu de musique ce matin avec Hanan Ben Ari, chez vous Raïlev, cœur brisé. Excellent réveil. Canary ce matin sur Radio J.
Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian.
Journal qui a fait le tour du monde, incarné à la couverture rouge et blanche, commencé le jour de ses 13 ans et devenu l'un des témoignages les plus bouleversants du XXe siècle. Celui d'une adolescente, Anne Frank, cachée avec sa famille pendant plus de 2 ans pour échapper à la barbarie nazie. Ce journal, c'est celui d'une jeune fille brillante, lucide, drôle, amoureuse parfois, mais surtout marquée par l'ombre d'une guerre qui dévore son enfance. Aujourd'hui encore, des millions de lecteurs découvrent la Shoah à travers les yeux d'Anne Frank, née le 12 juin 1929. Il y a donc presque 96 ans, un peu plus de 96 ans jour pour jour.
Anne Frank, de son vrai nom Anne-Lise Marie, née à Francfort-sur-le-Main en Allemagne. Les Franks sont des juifs traditionnalistes aisés et bien intégrés dans la famille. Sa mère, Edith, est la plus dévouée à sa foi. Son mari, Otto Frank, ancien officier allemand, décoré pendant la Première Guerre mondiale, veut de son côté poursuivre ses études et possède une importante bibliothèque intellectuelle. Les deux parents encouragent leur fille à lire.
En mars 1933, les élections pour renouveler le conseil municipal de Francfort voient le parti nazi d'Adolf Hitler l'emporter. Anne Frank a 4 ans. Des manifestations antisémites ont immédiatement lieu. Par conséquent, la famille Frank commence à craindre pour sa sécurité. Celle-ci, elle reste en Allemagne. Otto Frank, le papa, reçoit donc une offre pour démarrer une affaire à Amsterdam. Il s'y rend pour s'organiser et préparer la venue de sa famille qui trouve un logement donc dans la banlieue sud d'Amsterdam.
Les deux sœurs, Anne et Margot, ont une personnalité bien distincte. Margot est maniérée, réservée et studieuse, tandis qu'Anne est expressive, énergique et extravertie. Margot est d'ailleurs placée dans une école publique, tandis qu'Anne est dans une école Montessori. Malgré l'entrée dans la guerre, elles apprennent le néerlandais, s'adaptent rapidement à la vie aux Pays-Bas et elles se font des amis. Anne Frank découvre assez jeune ses aptitudes à la lecture et à l'écriture. Son amie Hannah Goslar se rappellera plus tard que pendant sa tendre enfance, Anne écrivait régulièrement, cachant ses écrits avec sa main et refusant de discuter du contenu de ceux-ci. Des écrits malheureusement égarés.
En mai 1940, l'Allemagne nazie envahit les Pays-Bas et l'armée néerlandaise se rend quelques jours plus tard. Le gouvernement d'occupation commence à persécuter les Juifs en instaurant des lois antisémites. Otto perd ainsi son commerce en vertu d'une loi interdisant aux Juifs d'avoir leur propre entreprise en raison de l'application d'un décret statuant que les enfants juifs ne peuvent suivre des cours que dans des écoles juives. Les filles Franck sont de leur côté contraintes de s'inscrire au lycée juif. En 1938 et 1941, Otto tente d'obtenir des visas pour sa famille dans le but d'émigrer aux États-Unis ou à Cuba, mais toutes ses tentatives échouent.
Pour son 13e anniversaire, le 12 juin 1942, Anne reçoit un carnet qu'elle avait montré à son père dans un magasin quelques jours plus tôt. Bien que ce soit un livre d'autographe relié avec un morceau de tissu rouge et blanc et muni d'une petite fermeture à l'avant, Anne décide de l'utiliser comme journal intime. Elle commence à y écrire presque immédiatement, se décrivant personnellement, décrivant sa famille et ses amis, sa vie à l'école, ses admirateurs et les endroits du voisinage qu'elle aime visiter. Lorsqu'elle y écrit, elle s'adresse à Kitty, une amie imaginaire.
Si ses premiers écrits montrent que sa vie est celle d'une écolière classique, Anne fournit aussi des détails sur l'antisémitisme qu'elle subit. Par exemple, elle écrit à propos de l'étoile jaune que les Juifs sont obligés de porter en public et liste quelques restrictions et persécutions qui bouleversent leur vie. Car au début de juillet 1942, les Allemands commencent à convoquer les Juifs aux Pays-Bas pour être déportés. Les parents Franck suspectent le danger, prennent une décision. Alors le lendemain matin, Otto explique à sa famille son plan. Ils vont tous se cacher dans des pièces au-dessus et à l'arrière des bureaux de sa société, sur une rue, le long d'un des canaux d'Amsterdam. Le matin du 6 juillet 1942, la famille s'installe donc dans la cachette de l'annexe.
Il faut expliquer à quoi ressemble cette fameuse annexe. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le visiter, l'immeuble principal est un vieux bâtiment typique des quartiers au centre d'Amsterdam. À l'arrière, On y trouve un espace à trois niveaux auquel on accède par un palier situé au-dessus des bureaux de la société d'Otto Frank. Et la porte de l'annexe est par la suite cachée par une bibliothèque pour éviter qu'elle ne soit découverte. Seuls les employés d'Otto et certains de leurs proches sont au courant et aident la famille Frank pendant son confinement au péril de leur vie.
Et oui, ils sont alors les seuls contacts entre les résidents de l'annexe et le monde extérieur. Ils les tiennent au courant des nouvelles de la guerre, des événements politiques. Ils subviennent à tous leurs besoins, assurent leur sécurité, les ravitaillent en nourriture, une tâche d'ailleurs de plus en plus difficile à mesure que le temps passe. Et d'ailleurs, Anne Frank évoque dans son journal le dévouement de ces personnes, leurs efforts pour leur soutenir le moral. La journée, la famille doit se montrer silencieuse afin que le personnel des bureaux ne les entende pas. Et le 13 juillet 1942, la famille Frank est rejointe par la famille Van Pels, un couple, et leur fils âgé de 16 ans, puis ensuite rejoint en novembre de la même année par Fritz Pfeffer, un dentiste et ami de la famille. Alors, des tensions vont survenir rapidement dans le groupe. Anne, elle ne s'entend pas avec tout le monde, mais apprécie Peter, le jeune fils Van Pels.
Anne passe l'essentiel de son temps à lire et étudier tout en continuant à écrire son journal. Elle écrit qu'elle souhaite devenir journaliste et écrivain et écrit sur des sujets plus philosophiques comme sa croyance en Dieu et la manière dont elle définit la nature humaine. Jusqu'au printemps 1944, Anne écrit ses lettres pour elle seule jusqu'au moment où elle se branche sur Radio Orange, la radio du gouvernement néerlandais en exil à Londres. Elle entend alors le ministre de l'Éducation dire qu'après la guerre, il faudra rassembler et publier tout ce qui avait trait aux souffrances du peuple néerlandais pendant l'occupation allemande. Il cite, à titre d'exemple, entre autres, les journaux intimes.
Frappée par ce discours, Anne décide donc de publier un livre après la guerre, se dit-elle, son journal intime devant servir de base. Elle entame alors un travail de réécriture, corrigeant ou supprimant les passages qu'elle juge peu intéressants et en ajoutant d'autres en puisant dans sa mémoire. Anne retranscrit son journal sur de fines feuilles de papier qui viennent du bureau dans l'espoir d'en faire un roman intitulé Et Achter Hus, l'année. Mais ses espoirs se brisent le 4 août 1944, à 10h du matin, après 2 ans de vie clandestine. L'annexe est découverte par la police allemande. Ont-ils été dénoncés ? Nul ne le sait vraiment encore aujourd'hui.
Heureusement, entre guillemets, hein, quelques jours plus tard, les deux employés d'Otto Frank qui avaient aidé à cacher la famille récupèrent les journaux et les écrits d'Anne éparpillés sur le sol, dans l'annexe saccagée par les nazis. Des pages manuscrites cachées dans un tiroir en attendant qu'elles retrouvent leur propriétaire. Tous les clandestins sont arrêtés et déportés, d'abord au camp de transit de Westerbork, puis à Auschwitz. Avec d'autres femmes non sélectionnées pour la chambre à gaz, Anne est forcée de se dévêtir pour être désinfectée, rasée et tatouée. Seul lot de consolation, l'adolescente est avec sa sœur et sa mère dans la même baraque. Le jour, les femmes sont utilisées comme travailleuses, esclaves, et la nuit, elles sont enfermées dans les baraquements bondés et glaciaux. Les maladies foisonnent et Anne devient sérieusement infectée par la gale.
De nouvelles sélections vont commencer parmi les femmes en vue de les envoyer dans le camp de concentration de Bergen-Belsen. Anne et Margot y sont déplacées, restées seules à Auschwitz avec son mari. Edith, elle, tombe malade. Elle est transférée fin novembre à l'hôpital du camp à Bergen-Belsen. Les sœurs Frank sont confrontées à des conditions de vie dramatiques. Il faut rappeler qu'en hiver, au nord de l'Allemagne, il fait moins 20 degrés. Et malheureusement, la suite n'est pas heureuse pour les sœurs Frank. Dans le camp, Margot, épuisée et malade, tombe de sa couchette sur le sol de pierre et succombe. Puis Anne Frank meurt à son tour du typhus. Elles avaient seulement 15 et 18 ans. Otto Frank, revenu d'Auschwitz en juin 1945, est le seul survivant de la famille et du groupe d'ailleurs de l'annexe. Il découvre le funeste destin de sa famille et en juin 1947, le journal, fruit de 761 jours de clandestinité, est publié pour la première fois en néerlandais sous le titre Et Achter Hus. Il devient dès 1955 une pièce de théâtre, puis en 1959 un film oscarisé, traduit dans plus de 70 langues.
Les infos week-end, Eva Soto.
Tous les dimanches, je vous donne rendez-vous à 6h20 et à 8h20 avec l'écrivain et ancien diplomate russo-ukrainien Vladimir Fedorovski, le personnage emblématique de la perestroïka, décryptage, histoire, anecdote. C'est tous les dimanches sur Radio J.
Radio J. Radio J.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio J, c'est Shirelle. Je viens le 23 juin au Palais des Glaces pour chanter Yen Tel Enmi, un spectacle qui parle de femmes, qui parle d'Israël, qui parle d'identité. Et j'espère que vous viendrez nombreux pour l'association Netzach et Tzedek qui aide les enfants en Israël.
Réservation netzach1948.com.
Netzach1948.com et 0603 52 88 88. Shirelle. Sur la scène du Palais des Glaces le 23 juin.
Radio J.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian.
Il est 6h30. Bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous. Comme tous les matins, nous sommes en direct ce jeudi 19 juin 2025. 622e jour de guerre en Israël. Il y a toujours malheureusement 53 otages à Gaza. Journal avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
Et on va commencer par ces missiles qui ont été tirés il y a quelques instants par l'Iran. Je crois une vingtaine ou une trentaine de missiles, hein, Eva.
Oui, au moins 25 avec plusieurs impacts constatés. Dans la nuit, il y a eu 2 salves de missiles, 10 missiles à chaque fois. Tzahal demande par ailleurs aux habitants d'Arak et de Kondab d'évacuer ces zones pour leur sécurité en Iran. Un réacteur à eau lourde se trouve à proximité. De son côté, Benjamin Netanyahou, lui, s'est adressé hier soir aux Israéliens alors que cela fait aujourd'hui une semaine que l'État d'Israël a lancé ses opérations militaires contre l'Iran. Le Premier ministre Netanyahou.
Nous avons lancé cette opération pour éliminer deux menaces qui pèsent sur l'État d'Israël. La menace nucléaire et la menace balistique. Nous progressons pas à pas vers l'élimination de ces menaces. Nous contrôlons le ciel de Téhéran. Nous frappons le régime des ayatollahs avec une force considérable. Nous frappons les sites nucléaires, les missiles, les quartiers généraux, les symboles du pouvoir. Je dois vous dire que je discute avec des dirigeants mondiaux et nous suscitons leur immense admiration pour notre détermination, pour les réalisations de nos forces et une immense admiration pour vous, citoyens d'Israël.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, alors que l'Iran affirme avoir lancé hier soir carrément des missiles hypersoniques contre Israël. Selon la télévision d'État, les missiles Fatah ont bien pénétré hier soir les défenses du régime israélien, mais il n'y a pas eu de blessés.
Benjamin Netanyahou qui a remercié par ailleurs le président Donald Trump pour son soutien.
Interrogé sur sa conversation téléphonique d'avant-hier avec Benjamin Netanyahou, le président américain a affirmé qu'il lui avait dit de continuer. Selon les mots du locataire de la Maison Blanche, le Premier ministre israélien fait du bon travail. Hier soir, Donald Trump est aussi revenu sur l'éventualité des États-Unis d'entrer dans la guerre.
J'ai un plan pour tout, mais nous allons voir ce qui se passe. Nous allons voir un petit peu quelles sont les possibilités. Ils auraient dû faire un accord. J'avais un super accord à leur proposer. Ils auraient dû faire cet accord. On en a parlé pendant 60 jours. On a parlé de 60 jours et ils ont décidé de ne pas signer l'accord. J'aurais aimé qu'ils le fassent. Ils veulent nous rencontrer, mais c'est un petit peu tard maintenant. Mais ils veulent nous rencontrer et ils veulent venir à la Maison Blanche. Nous allons voir. Peut-être que je les inviterai. Quoi qu'il en soit, c'est une honte. C'est dommage. Ça aurait pu être mieux fait.
Donald Trump traduit par LCI et puis on apprend à l'instant à propos donc de cette alerte que ce sont donc des dizaines de missiles qui sont en train de s'abattre sur Israël. Il y a des dégâts matériels d'ores et déjà constatés dans un bâtiment du Negev suite à un impact et sur un autre site du Gush Dan. Des inquiétudes subsistent quant à la présence de personnes piégées à l'intérieur.
La France, elle, veut un règlement négocié du conflit. Elle juge même urgent de mettre fin aux opérations militaires entre Israël et l'Iran.
Le président Macron demande au ministre des Affaires étrangères de prendre une initiative dans ce sens ces prochains jours. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée dans un communiqué publié hier soir à l'issue du Conseil de défense et de sécurité. Pour Emmanuel Macron, les frappes israéliennes visent de plus en plus des objectifs sans lien avec le programme nucléaire et balistique. Le chef de l'État déplore aussi un nombre croissant de victimes civiles en Iran et en Israël.
Le reste de l'actualité, c'est évidemment la guerre à Gaza avec ce nouveau soldat israélien qui a été tué hier au combat, Eva.
Le sergent-chef Steve Alphon, 20 ans, il appartenait au 603e bataillon du génie de combat. Il était originaire de Petah Tikva. Il a été tué dans des tirs de snipers à Khan Younes. Par ailleurs, sur le front nord au Liban, l'armée israélienne a éliminé le commandant de l'artillerie du Hezbollah dans le sud du pays du Cèdre.
Le reste de l'actualité en France, c'est la députée du Rassemblement National, Caroline Parmentier, qui est épinglée pour ses propos racistes, homophobes et pétainistes sur Facebook.
Selon le vice-président du RN, Sébastien Chenu, elle aurait rompu avec longtemps depuis cette ligne, mais sur le fameux compte Facebook mis en sommeil depuis qu'elle a rejoint l'équipe de Marine Le Pen, la députée a affiché son soutien pour le maréchal Pétain et ses propos datent de 2018.
Et puis enfin, rapidement, il appelait à éliminer le peuple juif, un militant d'ultra-droite jugé pour le meurtre d'un franco-marocain.
Il doit répondre pour homicide volontaire après la mort d'Éric Casado Lopez en 2022. Son procès devant la cour d'assises de Paris s'achève demain. Le suspect mentionne un geste réflexe ou la peur d'être agressé. Il avait publié sur les réseaux sociaux des propos racistes et anti-juifs. Par exemple, l'antisémitisme n'existe pas. Il appelle aussi dans ce poste à éliminer jusqu'au dernier de ce qu'il qualifie de cafard.
Merci beaucoup Eva, à tout à l'heure sur Radio J.
Radio.
6h35 et tout de suite, c'est le Dvar Torah du jour avec le rabbin Mevorer Zerbi. Brave, bonjour.
Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 23 Sivan, nous en avons déjà parlé plusieurs fois, et on peut citer le verset qui cite cette date du 23 Sivan, c'est le verset le plus long de toute la Bible. Il se trouve dans la Megillat Esther, au chapitre 8, verset 9, qui nous dit « Vaikareu » s'offrait à Meler Baetai, et les scribes du roi ont été appelés à ce moment-là, Chodesh Shlishi, au troisième mois, on compte les mois à partir du mois de Nissan, ou Chodesh Sivan, qui est le mois de Sivan. Les noms des mois ne sont pas évoqués en général dans la Bible, sauf dans les livres, je dirais, post-exil de l'après de la destruction du premier temple, puisque ces noms nous avons ramené de l'exil de Babylonie, et donc le mois de Sivan, on est avant la reconstruction du deuxième temple, c'est normal qu'on suive le mois de Sivan, le mois dans lequel nous nous trouvons. Bishlosha v'Isrim Yom Bo, le 23 de ce jour, c'est exactement aujourd'hui où ont été envoyées des nouvelles lettres pour défendre que les enfants d'Israël, les juifs, puissent se défendre contre le décret infâme de Haman qui avait voulu tuer tous les enfants d'Israël le 13 Adar. Alors, il y a des choses où on est partagé entre deux choses. La première, c'est d'invoquer l'aide d'Hachem, et on invoque l'aide d'Hachem dans le psaume 20. Je ne saurais que trop vous conseiller de lire ce psaume actuellement. « Ya'ancha Hachem biyom tzara » que Dieu va t'exaucer au jour de la difficulté. Peut-être un verset qui était dit au roi quand il partait en guerre pour qu'il puisse gagner. « Ele valechev ele basusim anachnu Hachem eloke nunaskir » Eux sont avec des chars et des chevaux, avec une force matérielle et physique, et nous c'est avec le nom d'Hachem. C'est ce psaume 20 qui se termine, Hachem Oshia Melech Yanenu Biyom Korenu, Dieu qui sauve et qui répond le jour où on l'appelle. Psaume 20. Mais il y a aussi un autre psaume qu'il faut aussi mettre en exergue, c'est le psaume du remerciement, le psaume 100. Mizmor Letoda, psaume que l'on chantait certainement aussi quand on amenait le sacrifice de remerciement à Hachem, Toda, et psaume qui se trouve d'ailleurs dans la prière de tous les matins, comme Yandra, qui lui est un psaume qui se trouve seulement dans les jours où on fait Tachanoun, les supplications. Il y a un verset concernant Sarah, quand on nous parle de sa disparition, on nous dit qu'elle était âgée de 127 ans, mais le verset ne dit pas 127 ans, il dit 100 ans, 20 ans et 7 ans. Pour nous dire que Sarah était aussi belle à 100 ans qu'à 20 ans, c'est pas exactement ce qui est marqué, mais c'est pas grave, on va le comprendre comme ça, et aussi juste et aussi pur à 20 ans qu'à 7 ans, en fait c'est aussi pur à 100 ans qu'à 20 ans, et aussi belle à 20 ans qu'à 7 ans. Mais enfin bon, en tout cas on voit ici la comparaison de comme à 100 ans, comme à 20 ans, je dirais que à 100, c'est le psaume du remerciement, eh bien, que nous puissions remercier Hachem avec la même intensité et la même ferveur que nous avons prié, que nous prions Hachem pour lui demander son aide, Yandra, Biyom Sarah, qui est le psaume 20, à 100 comme à 20, c'est-à-dire dans le remerciement comme dans la demande. Je rajouterai dans ces psaumes, donc le psaume 100 et le psaume 20 que je vous conseille de dire aujourd'hui, le psaume 22 qui est le psaume d'Esther, le psaume de Pourim, Eli, Eli, lama azaftani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Un psaume extraordinaire, un psaume de Pourim, du jeûne de Pourim. Rappelons que le jour de la semaine où tombe le 23 Sivan, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est le jour de la semaine où tombera Kippour, de l'année qui arrive, 5786, et c'est toujours lié avec cela, Pourim qui Pourim, il y a un message d'expiation, de délivrance, de remerciement à Hachem, enfin un cocktail très fort. Excellente journée.
C'est tous les matins sur Radio J.
Radio J.
14h-15h. Le grand journal. Steve Nadjar.
Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le grand journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le grand journal. 14h-15h. A tout à l'heure.
Radio J.
Ils visent des civils, des enfants, des familles. Au sol, une autre bataille se joue, celle de la vie. Les secouristes du Magen David Adom sont là chaque seconde auprès du peuple d'Israël. Mais ils ont besoin de vous. Un don, c'est une ambulance qui arrive à temps. Donnez maintenant. mda-france.org.
mda-france.org.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
Merci de votre fidélité. Ce matin, on va continuer à parler de ce qui se passe actuellement entre Israël et l'Iran. On vient de l'apprendre, hein, par ailleurs. Un impact sur l'hôpital Soroka à Beersheva. Apparemment, pas de blessés signalés. On fera le point tout à l'heure avec Eva Soto et avec Pascal Zonshine à Jérusalem. Mais d'abord, c'est Microsion, votre carte postale d'Israël avec Xavier Nataf.
La haine d'Israël a peu de limites. Prenez par exemple l'usine de la ville de Khomeini, au sud-ouest de Téhéran, en Iran. Tout au long de l'année, des jeunes hommes et femmes y impriment des drapeaux israéliens. L'usine produit environ 2000 drapeaux israéliens et américains par mois pendant les périodes les plus chargées, soit plus de 150 000 mètres carrés de drapeaux par an. Et les affaires sont en plein essor dans la plus grande usine de drapeaux d'Iran qui fabrique ces drapeaux israéliens, mais aussi américains et britanniques. Ils sont vendus aux manifestants iraniens pour qu'ils puissent les brûler en signe de mécontentement lors des manifestations organisées par le régime. Et les propriétaires de l'usine de drapeaux d'Iba Parcham, les drapeaux de Diba, ont bien compris l'intérêt commercial de fabriquer des drapeaux uniquement destinés à être brûlés.
Microspion. Cette carte postale d'Israël vous est offerte par l'Organisation Sioniste Mondiale.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J.
Alors que les tensions explosent entre Israël et l'Iran, tout le monde se demande, est-ce que les États-Unis vont se lancer dans la mêlée? Est-ce qu'on va voir des soldats américains débarquer à Téhéran en criant « Freedom !» avec des Ray-Ban et un burger à la main? Eh bien, oubliez les discours officiels ou les analyses stratégiques trop sérieuses. Le vrai indicateur d'un déploiement militaire, les amis, eh bien, c'est ce qu'il y a dans leur assiette. Oui, vous avez bien entendu. Après le Pizza Pentagon Meter, ce moment magique où une avalanche de pepperoni commandé à 23h au Pentagone a fait frémir les observateurs. Voici venir le Deployment Surf and Turf, traduction des steaks et du homard servis à des soldats dans une caserne américaine. Résultat, les réseaux sociaux se sont enflammés plus vite qu'un drone israélien. Ils leur servent leur dernier repas. C'est pas une cantine, c'est une antichambre de l'enfer. Et pendant qu'un soldat, la bouche pleine de homard, déclare en rigolant « Je suis prêt pour la guerre », Twitter, TikTok et X y voient le début d'une troisième guerre mondiale, version gastronomique. Problème, la vidéo date en fait de février. Mais bon, dans le climat actuel, les internautes ont préféré y voir un signe. Après tout, quand t'as du homard dans ton assiette à l'armée, c'est rarement parce que t'as gagné à la loterie que tu te prépares peut-être au pire. En tout cas, avec Trump qui souffle le chaud, le froid et l'éclair nucléaire dans la même phrase, je peux frapper ou pas, ou peut-être pas, on verra, on comprend que l'indécision politique, elle, est servie à volonté. Alors que va-t-il se passer? Une intervention américaine, une négociation de dernière minute ou juste un bon repas avant l'apocalypse? Une chose est sûre, gardez un œil sur les menus des soldats américains. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur Radio J. Vous restez avec nous dans quelques instants. L'essentiel de l'information avec Eva Soto et les dernières actualités. Un impact apparemment qui vient de tomber sur l'hôpital Soroka de Beersheba. On va faire le point juste après Semila, le mot du jour, et Reim Nissenbaum pour Un jour, une mitzvah. Je vous dis à tout de suite. On va parler aussi de ce sondage du CRIF sur la reconnaissance d'un État palestinien. Qu'en pensent les Français? Eh bien, le CRIF a travaillé pour nous et c'est Robert Agnès qui nous dira tout avant 7 heures.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
6h45 minutes, et oui, toute l'actualité avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. À la une de l'actualité, ces lourds bombardements de l'Iran ce matin contre Israël. Les sirènes d'alerte se sont déclenchées dans le centre du pays, notamment à Jérusalem, également ailleurs. Ce sont des dizaines de missiles qui ont été lancés, certains interceptés. L'hôpital Soroka de Beersheba a été touché, les dégâts sont importants. Il y en a aussi des dégâts ailleurs dans le pays, notamment dans le Gush Dan et dans un bâtiment du Negev, avec des inquiétudes sur la présence de personnes qui seraient piégées à l'intérieur. Benjamin Netanyahou a remercié le président Trump pour son soutien. Interrogé sur sa conversation téléphonique avec le premier ministre israélien, le président américain a affirmé qu'il lui avait dit qu'il fallait continuer par rapport à l'Iran. La France, elle veut un règlement négocié du conflit. Elle juge même urgent de mettre fin aux opérations militaires entre Israël et l'Iran.
Merci beaucoup Eva Soto. Eva, on vous retrouve évidemment tout au long de cette édition sur Radio J.
Le 6-9, Radio J.
Radio J.
Ne bougez pas, c'est votre chronique d'hébreu. Comme chaque matin, Mila, le mot du jour avec Aaron Lamy. Bonjour Aaron, Boker Tov.
Shalom Ilana ou Boker Tov les Koulam. Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Boker Tov les Kolam Azinim. Ou l'école Hamazinot. On est sur Radio J et ce matin, je vous parle du mot Yofi. Yofi, c'est la beauté. Alors, vous connaissez certainement le mot Yafé. On dira d'un homme qui est beau, par exemple, Adam Yafé, d'une femme qui est belle, Isha Yafa, ou d'une chose qui est belle, Davar Yafé. Entre parenthèses, chose en hébreu, ce n'est pas comme en français. Davar, c'est masculin. Mais je referme tout de suite la parenthèse. Donc, Yofi, c'est la beauté. Et d'ailleurs, en hébreu, vous avez très probablement, alors j'imagine que vous êtes allé en Israël ou alors que vous avez déjà rencontré des Israéliens et vous les avez probablement entendus dire ou s'exclamer en disant la chose suivante, Eze Yofi, Eze Yofi. C'est-à-dire que littéralement, comme c'est beau, mais c'est une façon de s'exclamer, de dire, oh, c'est génial. C'est une sorte d'exclamation pour dire, super. Ouais, donc, Eze Yofi, quel beauté littéralement, mais on peut le traduire par « c'est super » ou alors « c'est génial ». Par exemple, si votre petit cousin qui parle hébreu, qui est israélien, a réussi son examen, alors vous lui direz « Yofi, itzlachta b'mifran », c'est super, tu as réussi ton examen. Ou encore, on pourra avoir une phrase comme « Hayofi shel hagan mitgale ba'aviv », la beauté du jardin se dévoile au grand jour, au printemps. Donc voilà, Yofi, c'est, et je dis bien Yofi, et pas Yofi, ouais, avec Miller L, avec l'accent tonique sur la première syllabe. Et donc, Yofi, c'est ce qui touche à l'esthétique juive. Et vous savez que dans le judaïsme, la beauté esthétique, elle est souvent liée aussi au Tov. Hein, au Tov, c'est le bien, c'est-à-dire qu'il y a très très souvent pas quelque chose qui est accordé, une valeur qui est accordée au Yofi, à la beauté en elle-même, mais au Yofi comme étant quelque chose qui peut marquer une beauté intérieure. Et d'ailleurs, souvent, sur les Imahot, sur les matriarches, on va dire les femmes de Abraham, de Isaac, de Jacob, on va dire qu'elles étaient très belles, extrêmement belles. On va insister sur le fait qu'elles étaient Yefot Toar, qu'elles étaient belles, d'un bel aspect, mais c'est aussi pour souligner le caractère et la beauté intérieure. Donc, Yofi, c'est la beauté. Et je vous souhaite à tous et à toutes un Yom Malé Yofi, une journée pleine de beauté, mais aussi de bonté. Yofi, c'était le mot du jour. On est sur Radio J. Shalom, Boker Tov, Lekoulam.
Eh ben, Toda Rabba, Aaron Lamy, merci d'avoir été avec nous ce matin. Et comme tous les matins, d'ailleurs, on vous retrouve aussi en podcast sur radioj.fr.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
6h49, on va vous parler d'un concert. On va tenter de se détendre un petit peu dans cette actualité compliquée. Le concert de Beyoncé qui va débarquer au Stade de France. Et je sais que certains Israéliens avaient d'ailleurs pris leur place pour y assister. Je ne sais pas s'ils ont pu arriver en France, en tout cas pour cette semaine ou pas. En tout cas, on en parlera tout de suite. C'est Chaim Nissenbaum pour Un jour, une mitzvah. Chaim, bonjour.
Bonjour à tous. À la fin de chaque repas, juste avant de prononcer la bénédiction qui le conclut, le Birkat Amazon, on prend quelques gouttes d'eau dans sa main, on les étend au bout des doigts avant de les passer sur les lèvres. Cela s'appelle Mayim Acharonim. Que cela signifie-t-il? Car il est bien clair que l'idée va beaucoup plus loin qu'une nécessité d'hygiène. Nos sages nous enseignent que dans tout sel, y compris le sel que nous avons sur nos tables aujourd'hui, a pu se trouver mélangé un peu du sel de Sodome, cette ville qui se trouvait dans l'Antiquité à l'emplacement actuel de la mer morte et que Dieu détruisit au temps d'Abraham pour la punir de son immoralité. Donc du sel restant de cette destruction a pu rester. Ce sel se mélangeant peut-être à nos aliments a pu entrer en contact avec nos mains. Or il est clair que le seul reste de cette destruction est bien nocif. Il faut donc nous en débarrasser. D'où ces quelques gouttes d'eau. Toutefois, il semble bien qu'aujourd'hui un tel sel ne se rencontre que bien rarement. Faut-il vraiment un rite pour cela? D'autant plus qu'un de nos grands maîtres, Rav Mordechai, va jusqu'à dire « Celui qui néglige la pratique de Mayim Acharonim est assuré de voir réduire le nombre de ses années de vie ». Une telle importance. Eh oui, c'est que aussi ces quelques gouttes d'eau-là constituent la part que nous accordons aux forces impures avant de quitter la table. Nous nous débarrassons à leur profit de l'impureté de Sodome, afin qu'il ne reste notre repas que la seule partie qui compte vraiment, le service de Dieu. Bonne journée à tous.
Bonne journée, Chaim Nissenbaum. Chaim, on vous retrouve évidemment au quotidien sur Radio J, et je vous dis donc à demain. Mois de juin à Paris, effectivement ce jeudi 19 juin en passant par ce samedi et ce dimanche, la reine, la queen Beyoncé s'installe au Stade de France pour un concert unique, monumental, qui promet d'enflammer la scène comme jamais. Et je voulais vous passer un petit extrait pour que vous puissiez un petit peu respirer dans cette actualité difficile. Beyoncé, ce n'est pas qu'un concert, hein. C'est un phénomène mondial. D'ailleurs on sait qu'il y a énormément d'Israéliens qui ont pris leur place pour ce concert au Stade de France cette semaine. Alors on ne sait pas s'ils sont arrivés un petit peu plus tôt cette semaine avant la guerre en Iran, c'est-à-dire la semaine dernière ou pas. Mais c'est vrai que si on en croit les fans qui sont devant le Stade de France depuis ce matin, l'engouement est exceptionnel. D'ailleurs, il faut dire que Beyoncé a des liens avec la communauté juive. Hein. Elle a fait appel à plusieurs créateurs israéliens pour s'habiller, notamment dans Black is King en 2020, notamment Alon Liv, Neshar Evnet, Ami Amram, qui ont créé des tenues pour ses clips. Elle a aussi porté des créations d'Inbal Dror. Je m'adresse vraiment aux fashion victimes hein, ce matin. Et Galia Lahave, aussi très célèbre créatrice de robes de mariée, renforçant son image d'icône internationale, intégrant le savoir-faire israélien. Et évidemment, donc, elle est en France aujourd'hui. Elle vient d'ailleurs à chaque tournée depuis 2009 dans notre pays, que ce soit à Paris, à Lyon, à Marseille, à Nice. Et donc, si vous êtes au Stade de France ce soir ou ce week-end, profitez, vibrez, chantez, pas d'inquiétude. Si vous n'avez pas pu venir assister à ce moment d'anthologie, des vidéos, des stories, des directs seront partout sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'en profiterai pour faire un petit point tout à l'heure sur l'infotrafic en région parisienne, puisque Beyoncé crée du désordre sur les routes. Et oui, effectivement, on en parlera autour du Stade de France et jusqu'à dimanche. Restez avec nous tout de suite, le point de l'actualité en Israël avec Pascal Zonshein.
Bonjour à tous, c'est Léa Moscona.
Radio J.
Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole.
Il nous parle bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur.
Le 9-10, Léa Moscona.
À tout à l'heure.
Radio J. Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J.
Un point sur l'infotrafic en région parisienne. Et oui, je vous le disais, en raison de ce concert au Stade de France de Beyoncé aujourd'hui et ce week-end, eh bien, il y aura du mouvement de trafic compliqué, des restrictions de circulation et de stationnement. Il est recommandé d'utiliser les transports collectifs autour du Stade de France, RER B et D, ainsi que la ligne 13 Porte de Paris. Difficulté de circulation par ailleurs jusqu'à demain en raison de travaux d'entretien, notamment dans l'est de l'Île-de-France. Et puis dans les transports en commun, trafic perturbé ce matin sur la ligne 3 du métro, sur la ligne 14 également entre Saint-Denis-Pleyel et Mairie de Saint-Ouen, et puis sur les lignes de tramway également si vous les empruntez. Circulation interrompue entre Asnières 4 routes et gare de Saint-Denis en raison de dégradation par un tiers. Des bus de remplacement sont mis à votre disposition. Ça, c'est pour le tram 1. Renseignez-vous avant de prendre les transports en commun.
Le 6-9. Ilana Ferradian.
Merci de votre fidélité et on doit s'adapter à l'actualité. Robert Egenès, le directeur du CRIF, nous pardonnera effectivement, mais il y a des missiles en Israël et les Israéliens viennent de sortir des abris il y a une dizaine de minutes. Pour en parler, nous sommes avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Bonjour Pascal.
Bonjour Ilana.
Merci d'être avec nous. Tout va bien. Vous n'avez pas eu d'impact autour de vous, Pascal.
Tout va bien. Tout va bien à Jérusalem, il n'y a pas eu d'impact, pas eu de dégâts. En revanche, sur les environ 25 missiles tirés par l'Iran, il y a donc maintenant un peu moins d'une heure, il y a eu des impacts, notamment à l'hôpital Soroka de Beersheva. L'hôpital Soroka a été touché de plein fouet par un missile. Pour l'instant, on ne fait pas état de blessés graves, mais les secours inspectent la totalité du bâtiment de façon à vérifier qu'il n'y a pas de prisonniers dans les décombres. Il y a des dégâts importants. Il y a aussi des impacts dans le centre d'Israël, dans la région de Tel Aviv. À Ramat Gan, un immeuble a été touché. Il y a 12 blessés légers à Holon. Un autre immeuble a été touché. Là, on parle de 2 blessés graves. Pour l'instant, tous ces bilans sont encore provisoires. Il faut comprendre que toutes les forces de secours, Magen David Adom, pompiers, soldats du Pikoud Haoref, donc du commandement de la défense civile de Tsahal, inspectent toutes les zones autour desquelles il y a eu soit des impacts, soit des chutes de débris de missiles d'interception, afin de vérifier que personne n'est pris dans les décombres. Les personnes qui sont déjà sorties des abris, c'est une chose. Celles qui ont pu sortir par elles-mêmes, il y a effectivement des blessés légers, plusieurs dizaines de blessés légers, mais il s'agit maintenant de vérifier appartement par appartement, immeuble par immeuble, que personne n'est prisonnier des décombres, ce qui va prendre encore un certain temps.
À l'hôpital Soroka, on imagine que tout le monde a pu descendre, enfin en tout cas on l'espère, au moment de l'alerte, peut-être en souterrain.
C'est toute la question. Il y a évidemment une aide de l'hôpital souterraine qui a été construite déjà depuis plusieurs années. Soroka est tout près de la bande de Gaza, donc justement pour permettre à l'hôpital de continuer à fonctionner même en cas de guerre. Cela dit, il y a quand même du personnel et des patients dans les étages en surface. C'est ce qu'on est en train de vérifier maintenant. En tout cas, c'est la première fois que l'hôpital Soroka est touché. Mmh. Et c'est donc bien l'Iran qui attaque délibérément une cible civile, un hôpital en Israël.
Et on voit quand même que le tir est très précis de la part de l'Iran. C'est-à-dire que l'Iran sait exactement où frapper finalement, si elle cible un hôpital actuellement.
Oui, clairement, l'Iran affirme viser des sites stratégiques. Il a la capacité de localiser des sites stratégiques. Il a aussi la capacité de localiser des sites civils. L'impact contre l'hôpital de Beersheba n'est certainement pas l'effet du hasard.
Eh bien, merci beaucoup, Pascal Zonshine, pour ces informations. On suivra évidemment avec vous cette situation tout à l'heure. On vous retrouve à 7h26 pour le Zoom Israël. On va faire le point aussi avec nos correspondants des studios Qualita, Daniel Haïk, dans quelques instants, qui a pu aussi sortir des abris avec toute l'équipe de Qualita. On va faire le point avec eux. Juste après, ce sont vos chroniques du jeudi matin. Vous les connaissez. Arié Bensemoun, qui sera avec nous à partir de 7h05. Jean-François Strouf, qui nous parle Israël et environnement à 7h10 comme tous les jeudis. Et puis à partir de 7h20, on reviendra en France pour parler de ce procès, le procès de l'antisémite Alain Soral. Et oui, encore un, effectivement, Alain Soral qui était jugé hier pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et provocation à la haine raciale, notamment visé pour de violentes vidéos antisémites appelant ses ouailles à s'armer. Alain Soral qui était jugé en son absence au tribunal correctionnel de Paris, qui encourt 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. C'est Olivia Shafir, avocate de l'OJE, l'Organisation juive européenne, qui sera avec nous en studio tout à l'heure justement pour faire un point de ce qui s'est dit à l'audience hier. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h.